Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur les chemins du vendredi, un vendredi spécial aujourd'hui. France Culture s'engage aux côtés de la longue marche des femmes qui aura lieu ce samedi à Washington et dans plusieurs capitales du monde entier. L'occasion de nous interroger sur ce corps des femmes plus que jamais en marche. Allez, en route sur les chemins de la philosophie.
I got 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start and iron 24 shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Throw up the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman.
Pour suivre pas à pas cette marche des femmes, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la philosophe Geneviève Fraisse. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie.
Merci.
Vous êtes philosophe, je l'ai dit, vous avez publié Les excès de genre aux éditions Ligne, Du consentement aux éditions du Seuil et en 2016 est paru La sexuation du monde aux presses universitaires de Sciences Po. Vous allez nous accompagner aujourd'hui dans cette réflexion sur l'utilisation politique du corps des femmes. En un mot, cette longue marche des femmes, vous pensez que c'est une bonne idée ?
C'est certainement un événement.
Un événement,
et c'est ce qui a fait l'agréable surprise de voir que vous y consacriez une journée. Je dois dire, j'ai eu un moment de joie.
Eh bien, je suis ravie que vous veniez partager cette joie avec nous. Une troisième voix féminine nous rejoindra à 10h48 en la personne de Géraldine Mosna-Savoie, qui viendra aujourd'hui donner quelques conseils asexués, c'est promis, à Benoît Hamon.
You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy.
Commençons par un rappel des faits. L'homme que vous venez d'entendre, qui veut attraper par la chatte, je cite, je traduis les femmes, c'est Donald Trump, qui le 20 janvier prochain sera officiellement investi président de la République américaine. Le 21 janvier prochain, à Washington, se tiendra une marche des femmes, qui prévoit de rassembler plusieurs centaines de milliers de participantes. Cette marche aura des échos dans d'autres capitales, dont Paris, puisqu'elle a été relayée notamment par la coordination française pour le lobby européen des femmes. Tout a commencé donc au lendemain de l'élection de Donald Trump, le 8 novembre dernier. Teresa Schuch, une avocate à la retraite qui habite à Hawaï et qui désespérait d'apprendre que vient d'être élu à la tête de son pays un homme qui a tenu des propos racistes, xénophobes et misogynes, lance un appel à se rassembler sur sa page Facebook avant d'aller se coucher. Au réveil, Teresa Schuch constate que ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui répondent à son appel. Cette semaine, le nombre des participantes prévues s'élève à 200 000 personnes. La marche a été baptisée Women March, marche des femmes. Rappelons que c'est loin d'être la première de ce genre. Si on remonte dans le temps, le 5 octobre 1789 a eu lieu une marche des femmes en direction de Versailles. Les femmes marchent 6 heures sous la pluie en tirant des canons à main nue pour aller protester contre le roi et surtout devant le roi. En 1963, aux États-Unis a eu lieu la March on Washington qui revendiquait l'égalité des droits civiques pour les Noirs américains, qui fut l'occasion du discours devenu célèbre de Martin Luther King. Mais à l'inverse, justement, la marche qui aura lieu ce dimanche à Washington ne se veut porte-parole d'aucun particularisme. D'ailleurs, on a reproché aux organisatrices l'absence de diversité, car les premières centaines de milliers de participantes étaient blanches. Cette absence fut vite corrigée, comme en atteste le témoignage d'Yanou Bishop qu'on trouve sur la page Facebook de la Marche des Femmes. Écoutez.
Hi, I'm Iyana Bishop and I'm one of the youth ambassadors for the Women's March and I march for black women.
Bonjour, je suis Yanou Bishop et je suis ambassadrice des jeunes pour la marche des femmes et je marche pour les femmes noires. Depuis des années, nos luttes et notre activisme ont été supprimés des médias et de l'histoire et même si notre société a choisi d'oublier toutes ces femmes fortes, je marcherai dans ces rues pour montrer que les femmes noires, latinos, asiatiques, musulmanes, toutes les femmes sont fortes et puissantes.
Our new president has managed to threaten the lives
Notre nouveau président s'est débrouillé pour menacer la vie de tellement d'oppressés et une menace sur leur bien-être est une menace sur notre bien-être. Donc je pense qu'il est temps que nous nous rassemblions pour montrer que nous sommes puissantes et que nous avons la volonté de défendre le droit des femmes, des immigrés, des LGBT, des handicapés et des droits de n'importe quel marginalisé. J'espère vous voir le 21 janvier.
Bye.
Sur la page de présentation du site, on trouve une précision quant à la motivation première de cette marche. On y lit ceci, nous faisons front commun en solidarité avec nos compagnons et enfants pour la protection de nos droits, notre sécurité, notre santé, nos familles. La rhétorique utilisée pendant la campagne a insulté, diabolisé, menacé bon nombre d'entre nous. Femmes, immigrés, croyants, les personnes s'identifiant lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes ou asexués. Ceux qui ont la peau noire ou brune, les handicapés, les pauvres, ceux ayant été agressés sexuellement. La marche des femmes à Washington enverra un message à notre gouvernement, au premier jour de son mandat et au monde, que les droits de la femme sont des droits humains. D'où ma première question, Geneviève Fraisse. Quel sens y a-t-il à incarner dans le corps de ces femmes en marche une revendication si celle-ci est universelle et s'adresse à d'autres personnes qu'aux femmes?
Bah précisément, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est dans l'espace du symbolique. D'ailleurs, elles vont aller au Lincoln Memorial, qui est effectivement la place qu'a occupé Martin Luther King en 63. Donc il y a quelque chose de symbolique comme une sorte de catalyse de la résistance. C'est pas une demande de droits, c'est pas une lutte pour des droits, c'est pas une marche pour les droits. C'est une marche que j'appellerais une marche de résistance et qui fait qu'on passe du particulier au général ou de la part à l'universel. Pour faire une référence, par exemple, à l'anthropologie de Kant, qui sépare le peuple des femmes, qui donne des catégories anthropologiques, là, c'est comme si on sortait de la catégorie. Et c'est très important quand on pense à deux siècles de pratique du « nous », les féministes ou « nous », les femmes, qui commencent en gros aussi bien en Europe, en France par exemple, qu'aux États-Unis dans les années 1830. À partir de là, on a un pluriel, on a un « nous », et non pas seulement un « je », parce que de la résistance, de la révolte des femmes, on peut en trouver tout au long des siècles. Mais là, on passe au collectif. Mais dans ce collectif, ce qui est nouveau, là, pour cette marche à venir, c'est qu'en gros, il y a ce que j'appelle un passage à l'universel. Et pourquoi je le dis? Parce que ce sont les femmes qui arrivent à fédérer. Alors, d'abord les blanches, puis les blanches et les noires, puis les blanches, les noires et tout le reste de la terre. Donc, c'est la partie qui fédère le tout. On a comme une sorte de mouvement inversé que je trouve extrêmement intéressant, d'où mon plaisir à voir que vous consacrez du temps à cette marche, parce que je crois que c'est un geste particulier, un geste politique très particulier. Alors, je vais vous donner peut-être le contenu de ce que je veux dire par là. Si vous voulez, il faut... on peut dire l'avortement est menacé, on le sait. D'ailleurs, il n'y a pas qu'aux États-Unis.
D'ailleurs, il y a une autre marche qui est organisée ce week-end, qui est une marche contre l'avortement.
Tout à fait. Mais disons...
À Paris.
On en reparlera, je pense, plus tard
Bien
dans
sûr.
L'émission. Mais d'abord, si c'est pas une demande de droit, si c'est pas seulement la peur de perdre des droits, quand elles disent les droits des femmes sont des droits humains, donc que vous avez rappelé, c'est qu'il faut distinguer entre ce qui serait une demande de droits ou une peur de perdre des droits ou de la vigilance, tout ce qu'on a déjà connu dans des marches récentes, 97, 2004, etc. C'est plutôt parce que, comme elles disent, les valeurs de Donald Trump leur font peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est passé de la question des droits à la question du sexisme, en général. Et on a ça aussi en France, on a ça aussi en Europe. C'est-à-dire qu'après l'obtention d'un certain nombre de droits, ce qui est le cas des démocraties occidentales néolibérales, reste qu'on se rend compte que l'inégalité n'a pas cessé. Que donc, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'attaquer le sexisme, par exemple à travers les images, la lutte contre les stéréotypes, toute chose. Qu'est-ce que c'est le sexisme? C'est pas un manque de droits. C'est ce qu'on appelle une croyance à la hiérarchie entre les sexes. Cette croyance, souvent, on la relie au mot discrimination, ce qui me paraît être une erreur. On est là dans une émission de philosophie, alors soyons précis sur les mots. Discriminer, c'est séparer en jugeant. C'est donc quand cesse l'exclusion, on commence à discriminer. Et on peut revendiquer par des droits une sorte d'inclusion ou de réinclusion parce qu'un droit n'a pas été respecté. La question du sexisme, c'est en fait la croyance en ce que j'appelle moi une disqualification. Un sexe est disqualifié par rapport à un autre et ça peut se traduire par un certain nombre de comportements.
Y compris quand on a une égalité des droits. C'est ça que vous dites.
C'est ça que je dis, et précisément même, aujourd'hui où on a l'égalité des droits, on s'enthousiasme pour la lutte contre le sexisme, parce que c'est une sorte de système culturel, ou de système anthropologique, qui met les sexes en hiérarchie, et qui permet donc des comportements humiliants, dégradants. Moi j'emploie le mot disqualifié, parce que ça veut dire que la qualité d'une femme ne serait pas la même que la qualité d'un homme. Donc on est à ce moment-là dans quelque chose de beaucoup plus large. Or, précisément, par la défaite d'Hillary Clinton, d'un côté, qu'on regrettera ou pas, mais qui était quand même, bon, une personne de sexe féminin, qui aurait crevé le plafond de verre, comme on dit, et par ailleurs le fait que, d'accord, il y a des droits, mais il y a aussi un système global de comportement et de croyances qui fait que c'est là-dessus qu'il faut se battre. Donc c'est beaucoup plus large que la question des droits. Et c'est, je pense, pour cela que ça apparaît comme fédérateur ou catalyseur d'une résistance au système qui se met en place.
Ce qui est particulier ici, c'est qu'on a la revendication justement d'un particularisme, c'est-à-dire d'une certaine spécificité au sein de l'humanité. Ce sont des femmes qui parlent, disent-elles, au nom des handicapés, des noirs, des personnes ayant été agressées sexuellement, d'autres formes de minorité, puisque là, pour le coup, c'est l'adjectif qui est employé, même si les femmes peuvent se vivre comme une minorité, mais ne sont pas une minorité numérique.
Bien sûr.
Cette particularité revendiquée au nom, j'avançais au début, au nom d'une forme d'universalité. C'est ça qui peut paraître contradictoire, c'est de revendiquer une partie au nom du tout.
Mais
stratégiquement,
moi,
est-ce que ça ne nuit pas à leur combat?
Mais non, je pense qu'il faut avoir un point de vue historique, ou d'historicité plutôt, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous citais les femmes de 1830 en France, les Saint-Simoniennes, ou les abolitionnistes qu'on va retrouver à Seneca Falls aux États-Unis dans les années 30-40. C'est-à-dire que l'ère démocratique, c'est le passage au nous, mais nous catégoriel. Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt tout ce travail fait pendant deux siècles pour être la représentation du nous catégoriel, le féminisme que j'ai moi-même connu et pratiqué, et comme si aujourd'hui, peut-être cet événement permettait d'envisager l'hypothèse que la partie serve le tout. C'est comme un renversement, ou c'est comme une bascule, je ne sais pas quelle est la meilleure image. C'est ça que je regarde, je peux me tromper.
Mais pourquoi ?
Je peux me tromper.
Oui.
Non,
mais
la question
à la limite,
est posée,
oui,
et c'est intéressant.
C'est vrai. Mais finalement, cette marche est importante parce qu'elle exprime, encore une fois, une revendication, une opposition même à l'encontre directement du nouveau président des États-Unis. Que celle-ci soit initiée par des femmes ou par d'autres personnes, qu'est-ce que ça change ? L'important ici est cette marche, cette contestation.
Mais ce que ça change aussi, c'est que c'était le deuxième point que je citais tout à l'heure, c'est que la question des droits, dont on sait que beaucoup ont été accordés, ou que beaucoup de pratiques antidiscrimination ont été essayées par les quotas, etc., et que on sait qu'elles ont donné, elles ne peuvent pas donner plus qu'elles ne donnent. Soit le droit formel, soit des pratiques antidiscriminatoires ne donnent pas plus que ce qu'on pouvait en attendre d'un point de vue théorique qu'on connaît. Maintenant, on se rend compte qu'il faut aussi passer à autre chose. D'où la possibilité d'être dans le pluriel, c'est-à-dire d'être dans le, non plus dans la catégorie telle que Kant dans l'anthropologie les égrenait, ou même si on peut remonter jusqu'à Aristote, mais dans un multiple. On passe ce qu'on a aussi dans les sexualités, où on est sorti du deux pour passer au multiple. Donc le multiple est en train d'intervenir dans le champ de la pensée et dans le champ de la réflexion politique. Donc le multiple par rapport au un. Donc que cette catégorie, cette partie de l'universel que sont les femmes, puisse être tout d'un coup un catalyseur du multiple, c'est surprenant et ça n'est pas surprenant. Mais en tout cas pas contradictoire pour moi. Parce que l'histoire, elle n'est pas faite de contradictions, elle est faite de surprises, c'est-à-dire d'événements.
La question est de savoir s'il est légitime ou non, s'il est efficace ou non, d'utiliser son corps en politique. Et ici, en particulier, le corps des femmes, puisque l'action qui est décidée de faire une marche, donc c'est facile, il y a un rapport au corps, on incarne ici une revendication, on ne fait pas simplement que l'exprimer. Or, savoir dans quelle mesure le corps de la femme peut être utilisé de manière politique est un problème philosophique, entre autres, redoutable. Écoutez, une autre utilisation possible du corps de la femme en politique, bien différente de la marche à laquelle on va assister dimanche prochain. Et pourtant, voilà, vous nous direz en quel sens cette différence s'incarne.
Vous pouvez regarder notre poitrine aussi longtemps que vous le voulez. Mais quand vous regardez notre poitrine, vous ne pouvez pas faire abstraction du message écrit dessus. Notre poitrine s'exprime, s'exclame. On a transformé notre corps dénudé en instrument politique. On propose au monde une nouvelle signification de la nudité féminine. Et aujourd'hui, c'est un instrument politique. C'est mon arme politique. Et sur mes seins, il y a toujours un message que je veux vous faire passer. Nous ne sommes pas un parti politique. On ne se considère pas comme des femmes politiques. On est des activistes de rue. Nos actions consistent à attaquer nos ennemis. On attaque ceux qui représentent le patriarcat, qui tirent avantage de ce point de vue patriarcal sur les femmes et la position des femmes dans la société. Aujourd'hui, on transmet un message en disant « on se bat et nous sommes des femmes ».
Geneviève Fraisse, vous avez travaillé directement sur cette question de l'utilisation du corps des femmes par les femmes comme revendication d'une certaine liberté. Ici, dans le témoignage d'une femme, on a la revendication pas simplement de l'utilisation du corps, mais du corps perçu et conçu comme une arme politique.
Alors oui, c'est ce que j'appelle la nudité politique, dont j'ai développé quelques arguments dans les excès du genre. Cette nudité politique, moi, elle m'a paru, une fois qu'on pouvait dépasser tout ce qui était c'est occidental, c'est néo-blonde, etc. Et c'est pas moral. Une fois qu'on dépasse tous ces arguments,
rappelons que les féminines sont quand même celles qui viennent s'exposer seins nus, avec souvent un message écrit sur la poitrine.
Notamment, par exemple, il y a un message, pour ça que la question de l'arme, je la laisserai légèrement de côté pour le moment, telle qu'elle était dans l'extrait qu'on vient d'avoir, parce que néo-féminisme is watching you, ça veut dire quoi? Parce que j'ai une fois été inscrit sur, au moment, je crois, quand elles ont interrompu une rencontre autour de Le Pen, autour du Front National, cette nudité politique, c'est une stratégie. On est d'accord. Donc c'est pourquoi je comprends bien que vous passiez de la marche aux fémines, même si certains auditeurs auditrices peuvent être surpris.
On exacerbe ici le rapport.
Parce que c'est une stratégie. Et cette stratégie, elle m'est parue importante pour deux raisons. La première, c'est qu'elle veut intervenir dans le flux continu qu'on a des images maintenant. Je continue sur les images. Le sexisme, c'est aussi une question d'image. Et pas croire qu'on va supprimer les images. Donc les fémines choisissent autre chose que de dire on va supprimer les stéréotypes, on va intervenir nous, on va enfin être là, présentes nous les femmes et dire des choses. Elles disent, par ma nudité, j'interromps le flot des images que vous avez là sur tous vos écrans autour de vous et vous allez me regarder. Et de fait, on les regarde. J'avais comparé, par exemple, au mouvement La Barbe qui fait le contraire. Elles se cachent derrière leur barbe pour intervenir.
Rappelez pour ceux qui...
Alors, la barbe, ce sont des femmes qui se mettent des barbes importantes et imposantes et font irruption sur des estrades en général, où une brochette d'hommes discute de la suite du monde.
Réunion, organisation, politique,
de notre monde de demain,
dans tous les endroits.
Dans tous les endroits, des plus politiques aux plus univers, aux plus académiques. Et c'est l'entre-soi masculin qu'on connaît bien, mais qui perdure malgré tous nos efforts et malgré toute l'écoute dont on peut parfois bénéficier depuis quelques temps. Quand elles interviennent, elles, ce n'est pas elles qu'on regarde, ce sont la tête des hommes qui sont surpris, énervés, furieux, etc., etc. Tandis que quand les féminines interviennent, on les regarde.
Et elles sont silencieuses.
La différence entre la nudité politique, dans les deux cas, c'est les barbes disent « regardez ce qui se passe », tandis que les féminines disent « regardez-nous parce qu'on est en train de vous demander de réfléchir au monde qui ne tourne pas rond ». Donc c'est un geste, la nudité politique est un geste politique. Après, qu'on renvoie ça à l'usage de la nudité par rapport à la vérité, c'est tout un débat qu'on aura sans doute pas ce matin, parce que la question du corps des femmes, là, il est revendiqué dans sa précision et dans son acuité à l'intérieur de nos nouveaux modes de vie, à savoir tout le temps entouré d'images. En revanche, je pense qu'il faudrait revenir là à un texte plus ancien, d'il y a une bonne vingtaine d'années, qui est le texte Le contrat sexuel de Carol Patman.
Que vous avez préfacé aux éditions de la Découverte.
Oui, et que j'ai aidé à être traduit pour mon... Je veux dire, j'en suis vraiment très heureuse.
Votre plus grand bonheur.
Oui, je souhaitais le faire dès sa sortie il y a une bonne vingtaine d'années, et ça a été réalisé il y a quelques années. Et
qui est Carol Patman?
Le contrat sexuel, Carol Patman a écrit ce texte en 1988, donc vous voyez qu'il a déjà un petit peu d'âge, et il explique que sous le contrat social, donc c'est une philosophe anglo-saxonne, australienne-américaine, et qui explique que sous le contrat social, il existe un contrat sexuel. Ce contrat sexuel est implicite, non dit, caché. Donc depuis les penseurs du contrat social, Hobbes, Locke, Rousseau. Ce contrat sexuel, qui est donc caché sous le contrat social, il est en fait, il faut absolument lui le remettre visible. Donc vous voyez, on est toujours sur la question du visible avec le corps des femmes. Car elle explique que le contrat sexuel, qui est le droit sexuel, qu'on doit distinguer du droit patriarcal. Si vous voulez, le droit patriarcal, parce qu'on a tellement utilisé le mot patriarcat dans la pensée féministe, etc., que moi je n'utilise que pour parler effectivement du pouvoir des pères et pas seulement pour dire domination masculine. Souvent, il est employé pour dire domination masculine en général. Bon, mais ce droit patriarcal, c'est le droit sur la descendance. C'est le droit du père sur la descendance. Elle, le droit sexuel, pour elle, c'est autre chose. C'est simplement la possibilité que le corps des femmes appartienne, soit donc l'objet d'un droit par les hommes. C'est pas la descendance, c'est simplement le droit des hommes à disposer du corps des femmes. Elle dit que c'est un impensé du contrat social, donc pas de toute société de la même façon, précisément du contrat social qui va donner la pensée démocratique. Donc c'est assez intéressant parce que à partir de là, quand les corps des femmes ressortent comme celui des fémines pour faire stratégie ou comme celui de la marche à venir pour montrer que ce corps-là résiste à une politique proposée, on est dans la réémergence ou dans la sortie de l'ombre de ce corps qui a été approprié, ou en tout cas qu'on s'est réservé dans un espace dont on ne parle pas.
Et en même temps qu'on objective comme arme politique. C'est ça le paradoxe.
Qu'est-ce que vous voulez dire par objectiver comme arme politique ?
Eh bien du coup, il y a une utilisation explicite qui est faite
par les femmes elles-mêmes.
Par les femmes elles-mêmes.
Ah pardon, je croyais que c'était par les hommes.
Au contraire,
non, par les femmes elles-mêmes. Oui, c'est ce que je suis en train de
refuser lutter contre l'utilisation de leur corps par les hommes. Les femmes vont elmêmes utiliser donc objectiver leur corps comme
objet à sujet, ce qui est maintenant avéré.
En objectivant leur corps, c'est ça qui est compliqué.
Mais non, c'est ça qui est intéressant. Je trouve pas ça.
C'est pas contradictoire.
Mais je trouve pas ça si compliqué que ça. C'est plutôt ça. Je trouve pas ça si compliqué. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que au lieu d'être dans le lamento du on ne s'en sortira jamais, ce qui parfois le matin quand on se lève ou le soir quand on se couche, c'est ce qu'on pense. Décidément, la domination masculine a beau jour devant elle. Ce qui est en même temps intéressant pour moi, toujours de pointer ce que j'appelle la réflexion sur l'émancipation et non pas la réflexion sur la domination. Que se passe-t-il du point de vue de l'émancipation ? Eh bien, l'utilisation, la possibilité de... D'où l'importance du débat autour de l'avortement, on y viendra j'imagine, mais c'est cette idée, bien sûr, de faire ressortir le corps de l'ombre. Donc c'est de ce point de vue-là que des femmes à la marche, il faut analyser cette présence importante du corps des femmes et depuis ce nous des années 30 du 19e siècle, ce nous collectif. C'est-à-dire que le corps des femmes, c'est aussi un pluriel du coup.
Vous remontez aux années 30, si on va encore plus loin, il peut être surprenant parce qu'il y a une question quand même qu'on se pose souvent, peut-être, vous me direz si c'est votre cas, c'est comment expliquer qu'on en soit encore là ? Le débat féministe ne date pas d'hier. Je remonte en 1644, un texte qui s'appelle « Doctrine et discipline du divorce », écrit par John Milton, dans lequel on trouve explicitement l'affirmation selon laquelle un mariage qui ne fonctionnerait pas n'est pas un mariage où un adultère est commis, mais un mariage où il n'y a plus de conversation, où l'époux et l'épouse ne communiquent plus, n'ont plus de conversation ensemble. Et c'est, aux yeux de Milton, une raison suffisante pour la femme de demander le divorce. Au XVIIe siècle, ce texte est écrit.
Oui,
nous sommes au XXIe siècle. Alors, heureusement, les femmes ont le droit de divorce, mais c'est ce que vous appeliez cette inégalité sexuelle. De fait, ce sexisme est toujours de mise. On n'a pas attendu l'élection de Donald Trump pour en avoir la preuve flagrante.
Là, si vous voulez, vous dites plusieurs choses. La première, c'est combien de temps ça prend ? Combien de temps ça prend, quoi ? 3 siècles, qu'est-ce ? Déjà, on aurait aimé d'ailleurs que ce livre soit publié, ne soit pas publié seulement au début du XXIe siècle, c'est-à-dire 300 ans après, en langue française. Il aurait pu quand même sortir un peu plus tôt de la part de ce grand poète qu'on connaît comme grand poète. Alors, il fait ce texte aussi pour des raisons politiques, parce qu'il voudrait que le peuple divorce du roi. Mais ça, c'est une autre affaire. La question des sexes sert toujours de bocal, de marmite pour parler d'autre chose. Ça, c'est encore une affaire intéressante. Non, ce qui est remarquable, c'est que quand il dit c'est un défaut de conversation et non plus bon arrêter avec ces histoires d'adultère, bon bah d'accord, ça arrive dans le mariage, mais c'est pas pour ça qu'on dit qu'on divorce ou qu'on devrait divorcer. Parce que lui, ce qu'il dit, l'absence de conversation, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on rentre dans une posture de mutualité, c'est-à-dire d'égalité. Et ça, c'est le XVIIe siècle. Hein. Mon philosophe favori, tout le monde le sait, c'est Poulain de la Barre, qui est lui aussi du XVIIe siècle. Mais c'est peut-être le cartésianisme qui permet ça aussi, c'est-à-dire de la façon de dissocier le corps de la tête, hein, les deux substances, pensante et corporelle. Et donc, à partir de là, lui, le défaut de conversation, c'est comme un constat qu'on peut faire à deux, et de façon mutuelle. Mais le consentement mutuel, ça met juste 3 siècles pour pouvoir s'inscrire dans le droit.
Mais surtout, ce qui est passionnant dans ce texte-là, c'est qu'il parle justement de la conversation, donc de l'esprit des femmes.
C'est ce que je suis en train de vous dire.
Autre chose, mais ça, c'est parce que le femme qui est mise au premier plan.
Mais alors, ça, c'est un paradoxe. Donc, j'avais remarqué depuis longtemps, c'est que moi, qui voulais bien être matérialiste, marxiste, etc., et adorer les philosophes du XVIIIe siècle, les philosophes du XVIIIe, comme matérialistes, ils font dépendre l'esprit du corps, c'est logique. Tandis que les idéalistes, donc nous avons comme alliés, à mon corps défendant, si je puis dire, ou à ma tête défendante plutôt, nous avons comme alliés les idéalistes du XVIIe siècle, qui en séparant ce qui fait dire à Poulain de la Barre l'esprit n'a point de sexe, ce qui fait dire à Milton, le plus important, dans 1643, donc on est, voilà, on est en plein XVIIe siècle rationaliste.
Hein, oui.
Bien sûr que la question du corps reste entière, et c'est ce qui nous permettrait peut-être, avant d'en venir aux histoires de consentement mutuel, de se rendre compte de l'importance du débat autour de l'avortement. L'avortement est une question politique. C'est pas un droit civil. Vous savez, Il y a une formule en recevant hier le rapport du Haut Conseil de l'égalité qui soutient aussi les travaux gouvernementaux sur ce que les femmes ont pu obtenir dans ce quinquennat qui s'achève. Elle disait à propos de l'avortement, on est passé d'un droit à part à un droit à part entière, puisqu'on était sur la partie et le tout depuis le début de l'émission. Donc un droit à part à un droit à part entière. Yvette Roudy, dans des temps déjà antérieurs, parlait de la citoyenneté à part entière. Donc, on aurait l'entièreté du camembert, si je puis dire, ou du fromage. Et donc, ça serait pas seulement un morceau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande à ce que l'avortement soit considéré non pas comme un droit civil, comme un droit politique, mais comme un droit humain. Et c'est là...
Quelle différence?
Bah, la différence, si vous voulez, c'est que c'est inscrit dans le marbre.
Ça ne concerne pas que les femmes?
Quoi, l'avortement?
Oui, si c'est bien un droit humain. Alors, il y a une différence entre droit des femmes et droit humain.
Bien entendu, bien entendu. Mais ça veut dire aussi que c'est un droit qui n'est pas soumis à un certain nombre d'aléas politiques, s'il devient un droit fondamental. D'abord, avant de dire qu'il faudrait le partager entre les
hommes
et les
femmes. Posons la question.
Avant cela, il faut d'abord voir ce que c'est comme transfert symbolique. Mais c'est surtout parce que ce transfert symbolique correspond à une réalité. Si vous touchez à la vie et à la mort, ce sont des choses qui ne sont pas de même ordre que d'être dans une démocratie, d'avoir le droit de vote ou de réclamer, comme dans nos sociétés, et on a bien raison, l'égalité professionnelle, c'est-à-dire économique. Voilà, et qui renvoie à l'autonomie du sujet, un droit fondamental. Donc c'est ça le débat autour de l'avortement, d'où sa présence toujours dans les grandes élections politiques.
Petit rappel avec un extrait de François Fillon qui en a parlé en novembre dernier lors du dernier débat pour les primaires de la droite et du centre.
Dans mon livre, j'ai commis une erreur. Je vais la reconnaître devant vous. J'ai commis une erreur. Quand j'ai écrit que l'avortement était un droit fondamental, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un droit sur lequel personne ne reviendra.
Cette petite phrase, à titre personnel, de par ma foi, je n'approuve pas l'avortement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me regarde,
c'est mes convictions personnelles. Je suis capable de faire la différence entre ces convictions et le bien public, l'intérêt général. Je considère que l'intérêt général, c'est de ne pas rouvrir ce débat.
Par ailleurs, je suis un homme, comme si ça ne vous a pas échappé, donc je ne suis pas une femme, donc ce n'est pas à moi de prendre une décision personnelle sur cette question.
Je suis un homme, ça ne vous a pas échappé, je ne suis pas une femme, donc ce n'est pas à moi de prendre une décision personnelle sur cette question, Geneviève Fraisse. L'insistance de François Fillon à dire qu'il est un homme, donc il n'est pas une femme, hein, il la redouble d'une autre formulation, comme si ce n'était pas assez clair. Que signifie-t-elle? Est-ce que c'est le trouble dans lequel il a été jeté malgré lui, parce qu'on l'a ressorti des extraits de son livre, où il dit qu'à titre personnel, il ne défend pas forcément le droit à l'avortement, ce qui ne regarde que lui. Parce que, soit dit en passant, ça pose un problème quand on est candidat à la présidence de la République.
J'aimerais bien vous le commenter.
Savoir qu'un président de la République, quelqu'un qui s'apprête à être président de la République et dit qu'il n'est pas prêt à prendre de décision au nom de personnes qui ne sont pas lui, déjà ça pose un problème. Mais deuxièmement, dire que parce qu'il n'est pas un homme, ce problème ne le concerne pas, ce n'est pas lui de prendre une décision, dit-il. Est-ce que là, il n'y a pas un autre problème qui est de renvoyer la question du débat sur le droit à l'avortement qui est remise en question aujourd'hui, un dimanche prochain, aura lieu une marche contre l'avortement, contre l'IVG, uniquement aux femmes, sous prétexte, et à raison donc sans doute, que ce sont les femmes qui sont enceintes, le fœtus dont il est question, est abrité par le corps de la femme. Comment trancher cette question extrêmement délicate, qui pose la question à nouveau frais, de la responsabilité morale de l'homme dans la question de la conception d'un enfant? Geneviève Fraisse.
J'ai trois choses à vous répondre. La première, je suis bien d'accord avec vous, il est inadmissible qu'un élu de la République et quelqu'un qui veut devenir élu donc de l'ensemble de la République et pas seulement comme député, parle en son nom personnel. À partir du moment où on est élu, on parle au nom de tous ceux qui nous ont élus. Donc on représente autre chose que soi-même. Ça c'est la première chose, et donc moi ça me scandalise chaque fois qu'on rabat sur une histoire personnelle, que ça soit celle d'une angoisse à remplir sa feuille d'impôt ou du rapport à l'avortement.
Oui, François Fillon est loin d'être une exception.
Donc je ne comprends pas, et même je trouve ça scandaleux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la question de l'avortement est, comme je le disais à l'instant, une question très importante qui est sans cesse rapportée, par exemple aussi, à la peine de mort. Vous savez, on remet en cause la peine de mort comme on remet en cause l'avortement. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle avait fait une très jolie commentaire à Annie Ernaux, justement, en novembre dernier, en disant, ben oui, alors, il est contre, à titre personnel, contre l'avortement. Est-ce qu'on le verrait dire, cet homme-là? Donc, je vais en venir à votre question. Mmh. À titre personnel, je suis pour la peine de mort, mais enfin, je ne la remettrai pas en cause parce que c'est voté depuis... Ben non, il ne peut pas le dire. Pourquoi? On retombe sur la question du particulier et de l'universel. Et c'est pourquoi le passage à l'universel est pour moi un objet de réflexion et que je tente de l'accompagner autant qu'il se peut. Donc là, c'est intéressant parce qu'il ne pourrait pas, on ne peut pas faire la comparaison de ce point de vue-là. Parce que c'est impossible qu'il le dise. Très bien. Donc déjà, on n'est pas en symétrie, on est dans le particulier et dans le général, ou dans le particulier et l'universel. Alors pour en venir à votre question sur pourquoi ça serait seulement la question des femmes, cette question d'avortement, il y a énormément de réponses à faire qui sont comme un feuilletage de
François
choses.
Fillon, a-t-il raison de dire que cette question ne le concerne pas? Voilà ma question.
Oui, j'entends bien. Alors moi je vous réponds en disant, cette question suppose qu'il faudrait que les hommes soient impliqués là-dedans. Je vous rappelle qu'il y a des hommes qui, à l'époque, aux grandes époques des années 70, des gens qui ont aidé l'avortement, ont pris fait et cause pour la question de l'avortement avant que ça devienne autorisé par la loi. Donc les hommes n'ont pas été absents des luttes. Mais il faut rappeler plusieurs choses quand même. Il faut aussi faire de la mise en perspective historique. Il est clair que la servante séduite et abandonnée n'est pas qu'une image littéraire. La femme mère célibataire n'est pas qu'une image littéraire. Donc, qui va porter le poids de la maternité? On sait qui, notamment au moment où, face à une grossesse imprévue et non désirée, ça peut faire fuir plus d'un être de sexe masculin. Donc ça, la prise en compte de cette question ne peut pas être oubliée, car ce n'est pas uniquement du passé, c'est aussi du présent. Donc on est confronté à une inégalité que je vais appeler une asymétrie. La question de l'égalité des sexes, parce que moi je vais poser presque autrement mais peut-être ça répond quand même à votre question. Moi je vais faire le détour par l'égalité. Y a-t-il égalité quand il y a symétrie? Votre question serait, s'il disait comme homme je dois m'impliquer dans cette question, ce qui nous permettrait de passer à l'universel, dont je suis d'accord, je peux répondre que votre question telle qu'elle appelle une réponse, je vais répondre oui, il faudrait qu'il s'implique, mais ça ne m'empêchera pas de revenir à la complexité de la question qui est comment on décline l'égalité quand il y a asymétrie entre les sexes. Quand c'est pour aller à l'école, quand c'est pour voter, quand c'est pour être un individu économique qui devrait gagner autant qu'un etc. Quand c'est même pour choisir sa sexualité, quand on peut considérer qu'il y a là une symétrie, que l'égalité passe par la symétrie. C'est-à-dire ce que demandent les femmes doit être possible pour les hommes, le mariage pour tous, le changement de sexe, aussi bien que les questions économiques, civiles et politiques. Et c'est nos 200 ans d'histoire. On transmet le nom, les deux sexes transmettent le nom, l'autorité parentale est maintenant partagée, et etc., etc., etc. C'est ce que j'appelle le cycle de droite quasi achevé. Ça, c'est facile du point de vue de la pensée de l'égalité. Dès qu'on est dans l'absence de symétrie, asymétrique, quand on est dans l'absence de symétrie, qu'est-ce qu'on fait pour penser l'égalité? C'est une question philosophique sur laquelle il faut s'arrêter. Mmh. Et ma réponse serait de dire, problématiser cette question, oui. Mais ne pas répondre tout de suite, oui mais bien sûr, non mais bien sûr, etc.
D'autant
si on a enlevé le consentement mutuel, après, entre la loi de 1792 et le code civil du début du 19e siècle, où on va enlever la clause de consentement mutuel.
Qu'est-ce que c'est la clause de consentement mutuel?
C'est que, comme aujourd'hui, c'est que pour divorcer, on va être d'accord pour divorcer. Donc on est exactement ce que la conversation de Milton supposait déjà dès le 17e siècle, le défaut de conversation. Là, vous faites une représentation de l'égalité. Sauf que pour la question du divorce, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on sait très bien que la loi profite aux femmes plus qu'aux hommes, puisqu'elles ont moins les moyens éventuellement matériel réel, disons réel, on inclura le matériel dans le réel, de se tirer d'une mauvaise union, ou d'abandonner une union pour une autre. Donc on a là, la balance n'est pas égale. Donc si on veut réfléchir du point de vue de l'égalité, nous sommes confrontés à cette question d'une balance, du fléau de la balance qui ne fonctionne pas simplement. Donc c'est là où il faut introduire ce mot symétrie et voir ce qu'on fait avec la symétrie face à la reproduction. Et là, ça ne touchera pas seulement la question.
Qui est par essence asymétrique puisque c'est la femme qui porte l'enfant.
Ben c'est bien pour ça que je suis obligée de quitter le concept égalité dans sa version simplifiée, telle que je viens de le rappeler, pour poser la question du symétrique.
Mais est-ce que, honnêtement, Geneviève Fraisse, est-ce que le problème ne vient pas aussi de la difficulté que l'on peut avoir, y compris dans les combats proprement féministes, à prendre en compte le point de vue de l'homme dans des combats justement féministes qui ne concernent que le corps de la femme, comme c'est indéniablement le cas justement de l'avortement? C'est la femme qui porte un enfant, il ne pourrait pas en aucune circonstance en être autrement que ce soit la femme de décider de ce qu'elle fait de son propre corps. À aucun moment, il ne faudrait permettre qu'un homme puisse décider à la place de la femme s'il faut garder un enfant ou pas. Ça, c'est clair.
Bien
faut-il
sûr.
De là en conclure, comme semble le faire François Fillon, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, hein. Lâchement, me semble-t-il, que la question de l'avortement ne me concerne pas, et que faire l'effort d'essayer d'interroger la notion de responsabilité morale de l'homme dans la conception de l'enfant ne conduit pas forcément à la reconnaissance d'une supériorité de l'homme sur la femme dans ce cas-là.
Alors, vous savez, cette question me rappelle finalement une période qui a disparu, qui était avant la loi. Quand une femme était enceinte et qu'il fallait partir en Angleterre, à Amsterdam, etc. pour avorter, à ce moment-là, la question du financement de l'avortement se posait. C'était pas remboursé par la Sécurité sociale. Donc l'homme s'est retrouvé... Moi, j'ai des souvenirs précis de cela, pas concernant ma propre personne, mais concernant des proches, où comment se comportait le géniteur, allait-il donner sa quote-part financière pour partir dans un pays un peu loin, donc on avait besoin d'argent, surtout si on avait 20 ans, ou 18 ans, ou 22 ans. Et donc moi je me souviens que là, on pouvait tester l'implication de l'homme par rapport à la décision. Donc ça c'est intéressant. Je comprends la question que vous posez. Simplement, du point de vue qui est le mien, c'est quel est le pourcentage d'hommes qui se sentent concernés? Quel est le pourcentage... Vous voyez, la question va être aussi que... des enfants soient faits dans le dos des hommes, qu'on leur fasse des enfants dans le dos. C'est vrai. Les hommes peuvent avoir des enfants qui leur sont faits dans le dos. Donc ça veut dire que la liberté des femmes s'est traduite par du pouvoir. J'essaye, vous voyez, de garder les mots conceptuels pour qu'on sache où on va. Donc, cette liberté chèrement acquise dans ces 50-70 dernières années, 50, est une liberté. Hein, nous avons deux concepts, égalité et liberté, pour définir ce que serait l'égalité des sexes, la liberté des femmes en démocratie. La liberté, c'est aussi le pouvoir. Que fait-on du pouvoir? Parce que moi, j'aurais une autre question que la vôtre, qui pourtant va faire écho. C'est une question que le féministe n'a jamais su vraiment poser, et moi qui m'a toujours étonnée, c'est qu'est-ce que le pouvoir des mères? Voilà. Moi, si vous voulez, je vous embarque. Si vous voulez qu'on aille dans ce problème du pouvoir des femmes, parce que c'est ça que pose votre question.
Ouais.
C'est quel est le pouvoir des femmes? C'est-à-dire qu'on a, et on essaye d'établir avec des principes qui s'appellent égalité et liberté, des choses qui sont structurées par rapport à la pensée démocratique, hein, doublée d'une possibilité d'une pratique de la République. Et alors, sauf que ça se traduit par du pouvoir. Même, d'ailleurs, dans l'oppression, le pouvoir des mères doit être questionné. C'est aussi le pouvoir qui fait vengeance, rééquilibrage des pouvoirs des hommes, etc., etc. J'ai eu encore récemment un chauffeur de taxi qui s'est mis à m'expliquer le pouvoir des femmes magnifique, etc., comme contrebalancement du pouvoir des hommes, etc. On y était. C'est une vieille histoire, on la connaît bien. Donc, comment s'effectue le passage de la liberté au pouvoir? Alors, dans le vieil système qui est celui de la maternité des femmes, mais aussi par rapport aux nouvelles maternités ou au refus de la maternité. Donc ça serait, après la question de la symétrie, la question du pouvoir serait la deuxième.
Surtout qu'elle revient à formuler encore différemment la question que je posais qui finalement est le fil rouge de cette discussion, Geneviève Fraisse, puisque nous nous interrogeons sur l'utilisation politique du corps de la femme. Bien souvent, cette utilisation peut être... Le corps peut devenir un prétexte à une revendication politique bien supérieure. Vous parlez d'égalité et de pouvoir depuis tout à l'heure, c'est bien de ça dont il est question. Et pourtant, peut-on définir la femme autrement que par son corps? Si on enlève le corps féminin, le corps biologiquement sexué que l'on qualifie de femme, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme si on prend des purs esprits. Vous parlez des idéalistes tout à l'heure. Finalement, ce corps de la femme... S'il n'est pas juste qu'un détail, qu'un prétexte, qu'un outil, qu'une arme politique,
non.
Il est aussi peut-être ce qui fait, je dis la femme et non pas le féminin, les femmes. Y a-t-il un autre sens aux femmes que le corps féminin?
Alors, je ne sais pas si je vais répondre à la question comme ça. J'ai envie de le prendre à l'envers comme le début de votre remarque, c'est-à-dire que dans cet idéalisme de n'utiliser que la raison des femmes, mm-hmm. hein, et que j'ai pratiqué d'un point de vue très matérialiste par ailleurs, c'est le corps réintervient. C'est un peu en sens que j'avais voulu parler du livre de Carol Patman, ou même que vous avez cité les Femmes, c'est-à-dire que le corps va réintervenir au croisement même de la raison et de la pensée. Mais moi, ça sera pas pour définir les femmes, c'est parce que c'est ça qui fait histoire. C'est pour ça que mon dernier mm-hmm. livre s'appelle La sexuation du monde. La sexuation du monde, pour moi, c'est pas la différence des sexes, c'est pas les deux sexes, c'est que les sexes font l'histoire, fabriquent de l'histoire. Donc on fabrique de l'histoire avec les corps, mais les corps des êtres sexués, quels qu'ils soient deux ou qu'ils soient cinq, comme le dit une chercheuse américaine, ou qu'ils soient plus encore.
C'est ça, là, donc, en termes binaires, homme-femme.
Et là, on pourrait reprendre la notion de consentement, parce que moi, quand j'ai travaillé sur le consentement, c'était une façon aussi de me provoquer, bien malgré moi, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas analyser la notion de consentement sans passer par la question du corps. C'est-à-dire que là où on a Milton qui nous dit défaut de conversation, c'est la tête, voilà, d'où le consentement mutuel, des lois modernes sur le divorce, etc., etc. Tout ça, c'est une très jolie histoire. Du moment, on sait bien que dans la notion, ça c'est le consentement par rapport à mariage-divorce. On a aussi l'évidente profondeur du questionnement sur le consentement par rapport au viol et par rapport aux violences sexuelles. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion de consentement? Le consentement, c'est quelque chose qui est fabriqué par le corps et pas seulement par le dire. Il y a des choses que le corps dit ou ne dit pas, fait ou ne fait pas, non pas qu'il serait un impensé du dire, mais le consentement ne peut pas faire l'économie du corps.
Et le corps consent à sa manière, lui aussi. Alors, ou refuse.
Oui, mais c'est pour ça que je ne le sépare plus. Je voilà. redeviens moniste.
Mmh. Il n'y a pas le corps d'un côté, l'esprit de l'autre.
Il faut être réaliste, je vais être moniste.
C'est ça, c'est là où ma question n'a pas de sens. On ne peut pas distinguer d'un côté le corps des femmes, de l'autre l'esprit des
pour
femmes.
Pour le consentement, on ne peut pas. Mmh. Et on peut par exemple dire qu'on ne consent pas par le corps et non pas par un mot. Ça, c'est même authentifié dans certaines contrées. Donc la question là devient très intéressante, mais je réponds à côté de la question.
Non, vous répondez exactement à la question.
Ah bon,
la seule chose reste de savoir du coup si on en revient à l'utilisation politique du corps, est-ce qu'il ne revient pas à dissocier de manière artificielle le corps de l'esprit en faisant croire que ce corps va être au service, va devenir une arme politique, alors que vous le dites, et ça paraît quand même le bon sens, que la question de la femme ou des femmes ne peut jamais, de leur identité ne peut jamais avoir pour réponse la distinction entre le corps d'un côté et l'esprit de l'autre.
Oui, mais parce qu'une fois de plus, j'ai pas envie de séparer quand je parle de sexuation du monde ou de asexuation des problèmes, comme ça peut arriver à l'inverse. Le mot sexuation m'est venu de mon analyse de l'absence de sexuation, donc de l'asexuation de certaines politiques publiques. Mais s'il y a sexuation du monde, ça veut dire que oublions les questions nature-culture, sexe-genre, etc. Et voyons comment cette question qu'on appelle les sexes, les genres, le genre, ça c'est tout un débat philosophique. Mmh.
La femme n'est pas le féminin.
Ça fabrique, oui, en plus, tout ça c'est des histoires identitaires qui ne m'intéressent pas. Mais en revanche, que les relations entre ces corps qui font des choix d'identité, je mets des guillemets, j'aime pas ça, ou de sexualité, ou même de pratique telle que moi j'ai pu pratiquer par exemple mon métier de chercheur et philosophe dans la vie en tant que jeune femme émancipée de la deuxième partie du XXe siècle, tout ça, ça fabrique de l'histoire. C'est pas en dehors de l'histoire comme, ah oui, il faut les émanciper, ah oui, vous voyez, de régler l'histoire de cette part de l'universel, mais qui du coup est toujours anhistoricisée.
Mais oui.
Moi, si je la rends historicisée, je vais à ce moment-là penser que ça fabrique de l'histoire et je n'utiliserai plus des catégories qui définissent quelque chose du masculin et du féminin. Ça,
non, mais
ça, c'est pas avec ça que je travaille.
Je travaille avec
des problèmes. Oui. Par exemple, permettez-moi juste d'ajouter une demi-phrase, le consentement, c'est un problème. Après, comment ça se répartit? Vous savez, j'avais tout le temps souligné que l'adjectif consentant, dans un dictionnaire encore récent, consentant, c'est-à-dire l'adjectif substantivé, ne se dit guère que des femmes. Là aussi, il y a de l'asymétrie.
C'est vrai, on dit consentante
et de l'analyse,
plus que consentant.
Bien sûr. Et du coup, c'est les femmes qui consentiraient, les hommes, ils consentent jamais. Vous voyez, je vous retourne la question. Ah bon, ils sont pas consentants, les hommes, ou ils n'ont pas à exercer leur consentement, ou leur consentement, il est de toute façon acquis, puisque c'est eux qui décident. Et tout ça, ce sont des questions. Et non pas des définitions d'identité.
Mais la seule différence sur laquelle on ne peut qu'achopper, c'est justement c'est pour ça qu'on a beaucoup évoqué la question de l'avortement. Et que, parce que déjà, celui-ci est remis en question et la marche de dimanche en atteste qu'il y a aussi une marche anti-avortement qui aura lieu ce week-end et pas simplement la longue marche des femmes, notamment aux États-Unis mais aussi à Paris. C'est aussi que, on peut le prendre d'un point de vue historique, montrer qu'il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit, que la femme, c'est les deux mélangés, certes, mais il reste que, aujourd'hui en tout cas, il n'y a que la femme qui puisse porter un enfant. Et cette expérience-là justifie que ce soit la femme qui puisse décider en dernier recours d'avorter ou non, de garder un enfant ou non. Et que là, du coup, les objections qui inscrivent dans l'histoire, qui essaient de voir comment cette conversation peut avoir lieu, paraissent secondaires. Ce combat-là, il n'est pas du tout acquis, c'est
mais
ça.
Mais moi, je pense que la question de la reproduction sera la question du XXIe siècle. La question de la PMA et de la GPA font aussi partie du paysage, de cette asymétrie sur laquelle, avec tentative de symétrie, mais profondes inégalités, etc., etc., on rebat les cartes conceptuelles quant à la question de l'égalité des sexes.
On s'arrêtera sur cette idée. Un grand merci à vous, Geneviève Fraisse, d'être venue
merci
nous parler du corps des femmes aujourd'hui. Vous irez marcher pour la longue marche des
femmes.
J'avais
prévu, avant même cette invitation, d'aller marcher, absolument.
Très bien.
Alors que je n'y vais plus toujours aux manifestations, donc c'est parce que je pense qu'elle a de l'importance.
Très bien. Alors, on peut lire de vous Les excès du genre aux éditions Ligne, du consentement au seuil. On a parlé des doctrines et disciplines du divorce de John Milton chez Belin, le contrat sexuel de Carole Patman aux éditions de La Découverte, et puis récemment de vous La sexualité situation du monde aux presses universitaires de Sciences Po.
Avant moi, vous ne connaissiez pas la femme. Avant moi, vous n'étiez que des objets. Je suis la femme, celle que vous aimez, je t'aime. Je vous aime et je vous ai. Sur mon corps, que de doigts ont fait leur gamme. Sur mon corps, ils ont écrit son couplet. Je suis la femme, celle que vous chantez. Je chante avec celui qui me plaît. Sur mes pas, un soir, mes amants en foule. Sur mes pas, se jetteront pour m'étrangler. Je suis la femme, celle que vous frappez. Vos bras ne pourront que m'enlacer.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis, Géraldine Mosna-Savoie pour son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Chaque semaine, vous donnez des conseils philosophiques à un candidat. Alors, quel candidat a retenu votre attention cette semaine?
Eh bien, aujourd'hui, puisque nous sommes en pleine primaire de la gauche, c'est le moment parfait donc pour se pencher sur quelques-uns de ces candidats. La semaine dernière, on a parlé du philosophe Vincent Peillon. Place donc aujourd'hui à Benoît Hamon, qui veut faire battre le cœur de la France et nous rappelle alors une certaine pensée de Pascal sur le cœur et ses raisons.
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire? Je vais pas me présenter du tout.
Au lendemain de ce troisième débat des candidats à la primaire de la gauche, il n'est question que de performance, qui a sorti son épingle du jeu, ou de sondage, qui a le plus convaincu en général ou en particulier les partisans de gauche. Mais parfois en politique, il n'est pas question que de chiffres et de compétences, il est aussi question de cœur. Le cœur, ou le mot-clé justement de la candidature de Benoît Hamon.
Si on se laisse guider par l'air du temps, on pourrait croire que le cœur de la France s'est arrêté. On finirait presque par oublier que quand on regarde la France en face... Le cœur de la France est bien robuste. Le problème de la France, ce n'est pas que son cœur se soit arrêté. Le problème de la France, c'est que ce cœur ne gouverne plus. C'est pourquoi je défends une vision résolument optimiste et volontariste de notre avenir.
Le cœur en politique est comme le cœur en philosophie. Il n'est jamais absent, mais il reste quand même tenu à distance. C'est que le cœur envoie aux passions, à ce qui est irrationnel et relève a priori de la pure passivité. C'est que surtout, et comme le dit la célèbre pensée 423 de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. De quoi effrayer chefs politiques et savants en tout genre, ces têtes pensantes qui préfèrent la raison au cœur. Alors pourquoi un tel appel au cœur de la part de Benoît Hamon? S'il serait malvenu et faux, bien sûr, d'en déduire qu'il n'est pas une tête, pourquoi lui, qui prétend diriger, qui prétend donc se hisser à la tête d'un pays, veut-il tant faire battre ce cœur?
À mes yeux, le cœur de la France, c'est d'abord la justice sociale. Et la justice sociale, ce sera demain le revenu universel d'existence, la sécurité sociale du XXIe siècle, qui changera notre rapport au travail et éradiquera la pauvreté. Le cœur de la France, c'est la fraternité qui s'incarnera dans une république métissée, qui fera vivre la démocratie et donnera véritablement du pouvoir à chaque citoyen.
Donner du pouvoir à chaque citoyen, voilà ce que signifie faire battre le cœur de la France selon Benoît Hamon. Il veut que le cœur de la France gouverne le pays, c'est-à-dire que chacun de ses citoyens, à égalité et avec justice, en constitue la tête. Il inverse ainsi la donne, ou mieux égalise la donne entre la tête et le cœur, entre le chef et la masse. Mais faire gouverner le cœur de la France, est-ce aussi gouverner avec le cœur? L'enjeu est important car il s'agit bien ici de savoir si le cœur et ce qu'il comprend de force, mais aussi d'élan incontrôlable et capable de gouverner et de conduire un pays dans le droit et bon chemin. Pour Pascal, le cœur est justement loin d'être une source d'errance et d'émotions vagues. Alors certes, il est le siège de l'affectivité, mais il est aussi cette faculté qui donne à la pensée humaine ses principes, et c'est la 110e pensée cette fois qui nous l'indique, je cite « Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur », nous dit Pascal, « c'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes », et d'ajouter « le cœur sent et les principes se sentent ».
Le cœur de la France, c'est enfin la tempérance, ce qui nous permettra de construire un modèle de développement qui ne sera plus obsédé par la croissance, sera tourné vers la construction européenne, mais engagera résolument la transition écologique et la transition énergétique.
En déclarant que le cœur de la France est aussi la tempérance, ce qui permet de construire un modèle raisonné et durable, Benoît Hamon retrouve ainsi le sens pascalien du cœur comme fond de la raison et de la volonté, à rebours des romantiques. Mais reste toutefois cette question, si le cœur de la France est à la fois pour le candidat du revenu universel, les citoyens et leur mode d'action, si c'est à la fois la matière et la manière, c'est qu'il identifie encore le peuple au cœur, au sens et au sentiment, à l'intuition et à l'instinct. Certes, le peuple n'est plus opposé à la tête, au gouvernement et à la raison, il y est même associé, mais n'en reste-t-il pas quand même bien distinct?
Alors quel conseil donnez-vous à Benoît Hamon, Géraldine?
Eh bien, je lui conseillerais d'aller jeter un coup d'œil à un autre philosophe qui a donné une place de choix au cœur dans la République, Platon, qui fait du cœur bien éduqué, non pas seulement l'allié de la raison, mais ce qui fusionne et enthousiasme la tête.
Eh bien, merci Géraldine, merci pour lui, hein. Et puis on indique à Benoît Hamon, si jamais il a raté cette chronique, il peut la réécouter en ligne sur le site
Ce
des chemins
bien.
De la philo. Et puis laisser des commentaires, comme tous les auditeurs d'ailleurs.
Comme tous les auditeurs.
Des chroniques donc à télécharger, comme cette émission, hein, chers éditeurs, rien de plus simple pour télécharger les 2 minutes papillon, le petit précis philosophique des candidats en campagne de Géraldine Mottenay-Savoie et l'émission des chemins de la philosophie, en vous rendant sur le site des chemins de la philo. Vous cliquez sur l'onglet podcast et les émissions se téléchargent automatiquement. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine consacrée aux méditations métaphysiques de Descartes. Et oui, on parle beaucoup de méditation en pleine conscience hein, en ce moment. Et bien sachez que celles de Descartes sont métaphysiques. Vous découvrirez le sens de ce mot bien moins effrayant qu'il n'en paraît. À partir de lundi donc avec Thibaut Grèce, puis Jean-Luc Marion, puis Denis Moreau et enfin Pierre Guénantia, 4 cartésiens de choc pour vous guider dans ces méditations. La journée spéciale organisée par France Culture à l'occasion de la Longue Marche des Femmes qui aura lieu demain et que nous avons longuement parlé aujourd'hui avec Geneviève Fraisse continue. Rendez-vous à la grande table d'Olivia Gesbert qui recevra Joanne Scott. Et rendez-vous aussi à 16h par exemple, la méthode scientifique de Nicolas Martin qui vous parlera de la GPA ou gestation pour autrui. Dans 8 minutes sur France Culture, il sera temps de retrouver Florian Delorme pour son émission Culture Monde. Mais tout de suite, votre feuilleton quotidien, la vie moderne.